La marche du monde, Valérie Nivelon.
Bienvenue dans votre émission consacrée chaque semaine aux femmes et aux hommes, acteurs et témoins de l'histoire. Nous allons revivre ensemble un épisode emblématique de l'accueil des réfugiés en France, celui des Boat People. Le 30 novembre 1978, tous les journaux du monde ont fait leur une sur l'odyssée du Hai Hong, où 2449 Vietnamiens ont vécu un enfer.
Indésirables, les Vietnamiens du Hai Hong l'ont été jusqu'au bout. Même à l'heure de quitter la Malaisie, il a été interdit à tout journaliste d'approcher le moindre réfugié. Un peu comme si l'on voulait ici en finir le plus vite possible, et surtout sans trop de bruit. Pour les 222 Vietnamiens accueillis par la France, ce départ met fin à une aventure qui aura duré en tout 38 jours. 5 semaines, dont 4 immobilisés sous le soleil écrasant de la Malaisie. 222 quittent le Hai Hong, 16 autres venus de la côte Est les rejoindront à l'aéroport. La France accueille d'un seul coup 238 personnes.
Ils sont vietnamiens, cambodgiens, laotiens, et ils fuient les régimes communistes de leur pays pour échapper à la mort, tandis qu'en France, l'immigration de travail vient tout juste d'être suspendue et que le chômage augmente à toute allure. Et pourtant, l'association France Terre d'Asile a fait le bilan. La France a accueilli 128 531 réfugiés du sud-est asiatique de 1975 à 1990. Archives sonores et témoignages de Boat People dans la marche du monde entre les oreilles de François Guillemot. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes historien et chercheur au CNRS en charge de la documentation sur le Vietnam et la péninsule indochinoise à l'Institut d'Asie orientale, c'est à Lyon. Et vous êtes l'auteur du blog Mémoire d'Indochine à retrouver sur la page de la marche du monde. Alors il me semble, François Guillemot, que l'épisode des Boat People résonne plus particulièrement avec ce que vivent aujourd'hui celles et ceux qui tentent de rejoindre l'Europe, et notamment par la mer. Migrants, réfugiés, ce sont les termes les plus utilisés aujourd'hui, mais à l'époque des Boat People, comment doit-on qualifier celles et ceux qui fuient ce sud-est asiatique?
Alors, c'était déjà une question un peu complexe, parce que cela dépendait en fait des pays de premier accueil. Si on se mettait du côté thaïlandais, on parlait de réfugiés, mais on parlait aussi beaucoup de personnes déplacées. Il y avait toute cette ambiguïté autour des personnes déplacées, c'est-à-dire qui fuyaient la guerre. Là, c'était pas les boat people, mais c'était les land people, ceux qui fuyaient à pied, c'est-à-dire les Laotiens, les Cambodgiens majoritairement, et les Hmong, hein, qu'on oublie un petit peu aussi. Après, pour les Vietnamiens, les boat people, donc, qui partent réfugiés de la mer, qui partent par la mer et en direction majoritairement de la Malaisie, et puis et parfois vers les Philippines, et puis plus tard, dans une seconde vague, vers Hong Kong. Là, les choses sont un peu différentes parce que ce sont des réfugiés au sens où la migration par la mer est extrêmement périlleuse. Hein, on estime que sans doute un gros quart ou un tiers des personnes qui ont fui par la mer sont au fond de l'océan aujourd'hui, plus tous les traumatismes liés en fait à cet exil. Ceci dit, en termes de traumatismes, je crois que toute la péninsule indochinoise à cette époque est vraiment frappée, hein, frappée par le sort, et peut-être ce sont les Cambodgiens qui ont été les plus meurtris au niveau de la désintégration de la famille, au niveau des pertes personnelles et du terrible génocide des Khmers Rouges.
Alors si on veut parler également des Vietnamiens et si l'on veut rappeler ce contexte historique, c'est un long conflit, c'est une longue histoire de guerre. D'abord la guerre d'Indochine perdue par les Français, puis la guerre du Vietnam dans laquelle vont à leur tour s'enliser les Américains. Et puis pour finir, plus de 10 ans de conflit entre un Vietnam du Nord communiste et un Vietnam du Sud soutenu par les Américains. C'est donc la chute de Saigon qui met fin à la guerre et qui permet au pouvoir nord-vietnamien d'étendre sa domination sur le sud-vietnam, ce qui va entraîner la fuite de nombreux sud-vietnamiens. Pour quelles raisons partent-ils, François Guillemot?
Alors là, c'est pareil, hein. La première vague, c'est-à-dire ce qu'on estime entre 75 et 79, disons à partir de 78-79, là, avec cette affaire du Haihong, c'est une vague de réfugiés politiques. Hein. C'est plus l'ancienne administration du régime de Saïgon, des gens qui sont très liés au pouvoir, des gens qui sont dans les partis politiques, qui savent qu'ils auront des comptes à rendre, si vous voulez. Et donc là, on estime globalement, grosso modo, 140 000 départs de cette première vague. Et puis la vague qui va toucher en fait émotionnellement l'Europe, ça va être la seconde vague, c'est-à-dire la vague qui est beaucoup plus liée à la crise économique qui s'installe durablement sous le régime communiste, hein, et qui va perdurer, disons, au minimum jusqu'en 1988, puisqu'on observe des disettes dans le centre du pays jusqu'à cette époque-là.
Et là, on parle bien de réfugiés, hein, vietnamiens.
Oui, bien sûr, tout à fait.
Et comme toujours, derrière ce terme impersonnel de réfugié, nous parlons du destin de femmes et d'hommes qui fuient la répression. Écoutez le témoignage de Nguyen Van Huy. À 20 ans, il résistait au Sud-Vietnam en éditant des journaux clandestins. Écoutez son récit, recueilli par Lydie Mouchamalirwa pour La Marche du Monde.
J'ai vu tellement d'injustices dans la vie. Le soldat défend son pays, c'est très bien. Mais il ne faut pas abuser de cette situation pour arnaquer le peuple, parce que le peuple, c'est sa famille aussi. Et ils font la loi, et puis tout le monde a peur d'eux. Et c'est pour ça que je pensais qu'à ce moment-là, pour changer ça, il faut être dans la politique. Parce que si on est toujours des citoyens petit calibre, on ne peut rien faire, on subit. Mais pour sortir, pour quitter le pays, il faut avoir l'argent, il faut travailler. Les gens qui ont pu faire une seule fois dans leur vie, ils s'est ruiné, mais moi j'ai fait 27 fois. Hein. J'ai perdu plus d'un kilo d'or. Alors, c'est très dur, mais bon, c'est comme ça.
Van Huy est né au Sud-Vietnam en 1953. Son père est chauffeur et pousse son fils à étudier à l'université.
J'ai vécu toute ma jeunesse, primaire, collège, lycée et université au Vietnam. Et mes dernières études, j'ai fait l'école de sciences politiques et économiques de l'université de Dalat. Et en 1975, j'étais en quatrième année. J'étais aussi président des étudiants de l'université de Dalat, qui sont à peu près 6000 étudiants. Parce que dans le système du sud du Vietnam, les étudiants font pas la politique, mais ils peuvent organiser en association qui soutiennent aussi l'armée du sud contre l'invasion des communistes du nord, des Vietnamiens du nord. En 1975, j'ai 22 ans. Mon père est toujours chauffeur. Toutes les voitures appartiennent à l'État et l'État a confisqué sa voiture et puis il devient photographe ambulant comme tous les gens qui se débrouillent pour survivre, quoi. Tous les jours, il y a des informations qui nous découragent. Le sud du Vietnam est envahi par les communistes du Nord. Puis le 1er mai, c'est vraiment l'invasion totale de la capitale de Saigon, le sud du Vietnam.
Le correspondant de guerre d'Europe 1, François Ponchelet, couvre la prise de Saïgon par les Viet Minh. C'est un scoop.
Les engins blindés sont en train de se mettre en position devant le palais. Un char avec le drapeau Viet Cong est actuellement en train de se mettre en position. Le drapeau Viet Cong, rouge et bleu, l'étoile jaune. Ce char est couvert de feuillage. Ce sont les Viet Cong qui arrivent pour recevoir la reddition du général Minh. Ils défoncent la grille du palais. Ils tirent à la mitrailleuse sur le palais. Maintenant, complètement cerné par les forces Viet Cong. Les soldats du Viet Cong arrivent dans des jeeps. Les chars sont amicaux. Il salue la population. Incroyable, monsieur. Qu'est-ce que vous en pensez?
Eh bien, moi, je pense comme vous.
C'est fini la guerre, alors?
C'est fini.
À ce moment-là, je suis un peu désespéré. On a un peu peur parce qu'on ne sait pas ce que ça va donner. Mais comme je pense que nous sommes à peu près encore 2 millions à Saigon, il ne peut pas nous tuer comme ça. C'est pour ça qu'on a dit qu'on va voir. En fait, nous avons vu que ce sont des petits-enfants qui sont engagés dans l'armée, mais... Et ils savent rien, et puis nous avons parlé avec eux, et ils nous ont dit, nous retrouvons un peu notre confiance. On a moins peur, en ce moment-là.
Oui, la voix du Vietnam émettant de Hanoï, capitale de la République démocratique du Vietnam. La ville de Saigon, qui porte le glorieux nom de Ho Chi Minh, a été totalement libérée.
Nous répétons, la campagne Ho Chi Minh a remporté la victoire totale. La ville de Saigon a été totalement libérée.
En fait, dans ma vie, c'est la première fois que j'ai vu un communiste vivant. Pendant la guerre, lorsqu'on a vu un communiste, c'est toujours des cadavres. Et là, j'ai vu vraiment la première fois, j'ai vu des communistes du Nord sont venus avec leurs habits, leurs insignes, avec leurs armes, dans la rue vivant. Et ça nous fait un peu un coup choc quand même, parce que la première fois, on a vu vraiment notre ennemi vivant devant nous. Et c'est eux qui nous commentent maintenant. C'est pour ça qu'on est un peu vexé, mais un peu étonné. Mais après, vous savez, dans une ville qui vient de perdre, il y a toujours l'anarchie. Le régime communiste est très, très strict. Lorsqu'il arrête quelqu'un qui est en train de voler, c'est l'exécution sur place. En tant que citoyen de l'ancien régime, bah, si quelqu'un qui veut nous dénoncer que je suis un pillard, bah, je suis fusillé. Il n'y a pas de jugement, il n'y a pas d'enquête. À l'époque, j'étais en mobylette et ils ont arrêté tout le monde. Et puis, ils ont dit qu'il faut descendre dans la rue, venir voir, exécuter quelqu'un. Alors, juste une personne qui était là, attachée. Et puis, il a accroché devant lui, c'est un voleur. Ils ont pillé le sac d'une personne. Puis, la dame à côté, il est là, il a montré que c'est son sac. Et puis maintenant, suivant l'ordre du nouveau gouvernement de Saigon, c'est l'exécution, on va fusiller. Ben, il y a 5 soldats qui ont tiré carrément dans la poitrine. Et puis à la fin, l'officier, il a tiré une balle dans la tête, nous ont vu devant nous. Et ça me marque tout jusqu'à maintenant quand même, parce que cette personne-là, c'est un soldat, c'est un jeune, hein, à peu près 20 ans. Hein. C'est comme on âge à l'époque. Il a pillé peut-être, il a faim. C'est pour ça qu'on a un peu l'injustice et puis on sent un peu impuissance devant cette injustice-là, et puis il faut qu'on subisse.
Témoin des premières exactions commises par le régime de Hanoï, conscient de la censure opérée sur l'information, Van Nuy se demande comment résister.
À ce moment-là, j'ai dit dans ma tête qu'il faut qu'on fasse quelque chose contre ce système-là, il faut qu'on dénonce. Et j'ai vu mes amis, qui sont aussi des étudiants comme moi, on a confiance entre nous. Et on a dit que le premier devoir qu'on pourrait faire, c'est de diffuser les nouvelles. Et nous avons décidé de faire quelque chose, c'est-à-dire on va bipiller les informations qu'on a recueillies par les radios étrangères, qu'on va retaper et on va distribuer aux gens. Parce qu'à ce moment-là, après le 30 avril 1975, le nouveau régime communiste a coupé toutes les relations avec l'extérieur. Et nous n'avons pas d'informations. Et c'est pour ça que ceux qui écoutent la radio, par exemple la BBC, la VOA ou les radios étrangères, c'est considéré comme des traîtres. Et ils peuvent être traduits devant le tribunal pour complot ou trahison du régime, quoi. Et pour ça, on a décidé, le plus facile pour nous, c'est d'écouter la radio la nuit, en copie à la main et on tape sur machine. Toute la nuit, on fait 8 heures, on a appris à peu près 200-300 fois, c'est tout, hein. Mais c'est pas grave, parce qu'on va imprimer et puis on l'a graffé, on va passer sous manteau, on va circuler pour montrer qu'il existe un groupe qui n'est pas d'accord avec ce régime. Donc ça, quand nous commençons à dénoncer les atrocités, les maltraitances et puis les injustices, les nouveaux régimes, nous commençons à rédiger, nous en publier.
Le système de répression mis en œuvre par les Nord-Vietnamiens permet de diviser les voisins, les amis ou les collègues pour mieux régner.
La police communiste, la police locale du quartier font réunir toutes les familles du quartier. Ils ont dit que si quelqu'un qui a voulu renverser le régime ou quelqu'un de malfaisant, il faut qu'il dénonce au nouveau gouvernement et la peine de son mari ou son proche sera réduite. Et j'étais victime dans cette dénonciation parce qu'ils nous ont organisé une réunion avec des étudiants. C'est le mouvement progressiste pour la démocratie. Dans cette équipe, il y a une femme qui était ingénieure aussi. Mais comme son mari, c'est un jeune officier qui vient d'être dans les camps, elle n'a pas hésité de nous dénoncer. Et lorsque nous rentrons, le lendemain, tous mes amis sont arrêtés, sauf moi, parce qu'à l'époque, moi, je ne donne pas mon adresse. Et je suis un peu méfiant. Chaque fois que je rentre chez moi, je tourne en rond ma bicyclette 2-3 fois pour voir personne derrière moi avant de rentrer. Et lorsque le lendemain, j'ai entendu que mes amis sont tous arrêtés, dans ma tête, à ce moment-là, on dit, mais on a perdu. Notre nation est perdue, on a perdu la guerre.
Les étudiants sont des intellectuels, une catégorie systématiquement discriminée par le nouveau régime de Hanoï. Après son arrestation, Van Nuy est envoyé en camp de redressement.
je suis dans un cachot pendant 3 mois. Et là, c'est très dur. Mais heureusement, je suis le premier cachot parce que les gens sont enfermés dans les cachots un peu plus loin, vers le fond. Et chaque fois qu'ils passent, ils me connaissent et disent « Mais n'aie pas peur, ici on ne te tape pas, tu ne déclares rien, tu dis que tu ne sais rien. N'aie pas peur, on ne te tape pas. » C'est vrai, ils n'ont pas tapé. Hein. Parce que les personnes qui font l'enquête sont les jeunes officiers qui viennent du Nord, qui viennent de sortir de l'école de police. C'est pour ça qu'ils sont très polis, moi aussi très poli. Heureusement, à l'époque, j'ai une bonne mémoire, c'est pour ça que chaque fois je déclare, à peu près 11 fois, je déclare toujours la même chose. Et puis, vous savez, à Saigon, c'est un pays tropical. Et le toit en haut du cachot, c'est en tôle. Et à midi, vraiment, c'est l'enfer, c'est atroce, c'est très chaud. Le problème, c'est qu'il fait tellement chaud que parfois, je dors avec ma chemise et c'est ma sueur qui ronge le tissu. Et tout le dos, il n'y a plus de tissu, il y a devant, il y a tout propre avec les boutons. Mais derrière, il y a un gros trou. Derrière le gros trou comme ça, bah, ça fait rigolo, quoi.
Entre le cachot, une incarcération dans une salle collective et un transfert dans une autre prison de Saigon, Van Huy disparaît et ne rentre chez lui que 18 mois plus tard, en 1979.
Ma fille, maintenant, elle a à peu près 2 ans. Elle est dans une école, une crèche, quoi. Elle suis allée le chercher, mais elle ne me reconnaît pas. Alors, vraiment, j'ai pleuré. Alors, ma femme, première fois de ma vie, c'est quand je la vois. Elle dit, elle ne connaît pas, elle ne veut pas de moi. Mais vraiment, je prends la fille dans ma main, j'ai pleuré. C'est là. C'est triste, c'est pour ça que je dis, mais ces régimes-là, il faut qu'on le renverse. Vraiment, à ce moment-là, j'ai une haine incroyable. Que j'ai dit, mais il faut que je quitte ce pays-là pour changer de régime.
Réunir de l'argent pour partir devient l'obsession de Van Huy. Il tente la traversée de la mer de Chine 27 fois et se souvient de la toute première fois.
La nuit, on a monté dans un bateau. Parti, le moteur commence à rouler à peu près 2-3 heures. Et puis vers 2-3 heures du matin, il s'arrête. Et le timonier dit que maintenant, on a perdu le gouvernail. Ben, on ne peut pas avancer, on ne peut pas reculer, on reste comme ça. Et comme devant l'estuaire de Saigon, vous savez, il y a la marée. Alors à ce moment-là, la marée commence à être basse et bientôt reste coincée sur le sol et puis on n'a rien à faire. Et puis, il y a beaucoup de personnes qui sautent dans l'eau, mais le lendemain, on trouve beaucoup de cadavres qui sont flottés sur les abords. La police, quand la frontière qui nous ramène, nous arrête et puis dans un camp. Mais vraiment, ça, c'est un camp de travaux forcés. Mais un mois après, ils sont bondés de monde. Et tous les fins de mois, ils libèrent pour centaines de personnes, mais il faut payer 40 grammes d'or pur pour sortir. Et puis voilà, après, j'ai décidé de ne plus partir à Saigon. Je vais dans d'autres régions. Dans le sud du Vietnam, j'ai passé à peu près plus de 20 fois. Dans le centre du Vietnam, j'ai passé 5 fois. Et puis à Saigon, à peu près 5 fois. Et chaque fois, c'est surtout, il faut payer pour sortir de prison. Mais comme c'est dans le camp, c'est très dur parce que c'est à la campagne, on devait effectuer des travaux forcés. La charrue, il n'y a pas de bœuf, c'est moi qui fais le bœuf. Et porter des mottes de terre séchées pour boucher un bout de la rivière. Et marcher sur le paddy coupé, vous voyez, c'est comme quand on marche sur des pics. Et tout le soir, je rentre, ma plante de pied s'est ensanglantée. Hein, c'est très dur. Et puis, on n'a rien à manger. Et puis, et l'eau, c'est sale. C'est comme ça qu'on a vécu pendant des mois là-bas. Il faut payer très cher pour sortir, pour quitter. Alors la première fois ça va, deuxième fois, mais après vraiment c'est, on a un peu marre, quoi. Mais comme on dit, mais c'est par fierté, il dit mais il faut que je réussisse.
« Il faut que je réussisse », c'est le défi de Nguyen Van Huy, tel qu'il le raconte au micro de Lydie Mouchamaliroy. Il est un boat people et il va réussir sa grande traversée vers la liberté. Écoutez son récit juste après les infos sur RFI.
Géopolitique, le débat.
Obnubilé par la question kurde.
La marche du monde. Valérie Nivelon.
Suite de la marche du monde consacrée à l'épopée des Boat People, un épisode mobilisateur dans l'histoire de l'accueil des réfugiés en France.
L'initiative prise aujourd'hui par un comité d'intellectuels et de politiciens français de tous bords. Ce qu'ils veulent, c'est un bateau pour le Vietnam dans les 15 jours qui viennent. Un bateau qui naviguerait en permanence en mer de Chine pour sauver les réfugiés. Ce n'est pas seulement généreux, c'est indispensable, mais il faut de l'argent. Écoutez deux membres du comité, le docteur Kouchner de Médecins Sans Frontières et Yves Montand.
Bernard Kouchner, qui a pris l'initiative de cette opération ?
Ce sont des individus très divers qui se sont réunis et qui ont eu cette idée d'envoyer un bateau au secours des gens qui se noient en mer de Chine et qui sont adressés à Médecins Sans Frontières pour la part médicale. C'est un comité extrêmement large et extrêmement divers et qui n'est pas une petite chapelle comme c'est l'habitude.
Un comité auquel vous appartenez, Yves Montand ?
Oui, mais c'est-à-dire que c'est quelque chose de très large dans la mesure où cela va de Chartres.
Marie-Geneviève Lemoine a demandé à Jean-Paul Sartre pourquoi il prenait ainsi position dans cette affaire.
Personnellement, j'ai pris parti pour des hommes qui n'étaient sans doute pas de ceux qui étaient mes amis au temps où le Vietnam se battait pour la liberté. Mais ça n'a pas d'importance, parce que ce qui compte ici, c'est que ce sont des hommes en danger de mort. Et je pense que les droits de l'homme impliquent que tout homme doit entrer au secours de ceux qui risquent un danger de mort ou un danger de grand malaise. Telle est la raison pour laquelle je suis ici, c'est-à-dire abandonnant complètement mes opinions politiques et me mettant dans cette affaire du point de vue humain, c'est-à-dire du point de vue moral.
Jean-Paul Sartre et Raymond Aron, que tout opposé, unis dans un même sursaut d'humanité, ça a existé dans notre histoire de France, François Guillemot. Que se passe-t-il en 1979 pour que 4 ans après la prise de pouvoir des communistes dans le Sud-Vietnam et 2 ans après la réunification des deux Vietnams, une telle mobilisation voit le jour ?
Alors, il y a plusieurs choses. D'un point de vue politique, on peut dire que le mythe Vietnam, le petit Vietcong avec ses sandales de pneus qui a pris Saigon, s'effondre. C'est-à-dire qu'on est passé du mythe d'une résistance glorieuse et opiniâtre à un nouveau totalitarisme. Donc le socialisme à visage humain n'existe pas. La promesse de neutralité ou d'un pays avec deux systèmes ou d'une réconciliation nationale s'est effondrée elle-même. Donc du coup, le Vietnam dérange parce que il prouve seulement que les hommes de gauche avaient eu tort de soutenir cette guerre et que les hommes de droite sont pas mieux lotis non plus puisqu'ils ont soutenu de leur côté le régime de Saigon. Donc du coup, elle n'arrange personne. Et ce qui est intéressant, c'est que on a évidemment Raymond Aron et Sartre, ce qui est le pilier de cet antagonisme qui se rejoint. Mais on a aussi Glucksmann, on a les nouveaux philosophes. On a aussi Signoret et Montand. C'est quand même eux qui jouent dans L'aveu, c'est eux qui jouent dans État de siège, dans les films de Costa Gavras, et qui sont des films politiques.
Militants.
Et donc on a véritablement une prise de conscience générale, et puis l'avènement de ces French Doctors donc qui prennent position sur le terrain de l'humanitaire.
Et le French docteur en chef, c'est Bernard Kouchner, qui, à l'époque, a une idée géniale. C'est celle d'affréter un bateau, mais un bateau hôpital. Comment en arrive-t-il à cette idée ?
Il faut voir aussi la conjoncture un peu géopolitique. C'est-à-dire que les gens fuient sur un territoire international, qui est la mer de Chine orientale, dans lequel on peut pas intervenir de cette façon-là, qui est disputé par plusieurs pays de la région. C'est compliqué. Il faut trouver une astuce pour pouvoir accoster auprès de la Malaisie ou des Philippines ou d'autres pays ou de l'Indonésie. C'est compliqué. Le Vietnam fait figure de nouvel impérialisme rouge, entre guillemets, dans la région. Il faut voir qu'on n'est pas du tout à l'époque de la réconciliation de l'ASEAN. On est encore dans une reconfiguration, disons, de guerre froide à cette époque-là. Il fait peur. Le Vietnam est même à ce moment-là un pays en armes, tout à fait impliqué dans les affaires militaires et politiques de la région. Alors, le point d'orgue, c'est de trouver pas une excuse, mais disons un avantage, et c'est l'humain qui va primer. C'est-à-dire que, évidemment, qu'on soigne des hommes, quand on investit le champ sous couvert de la Croix-Rouge, si vous voulez, ou du croissant de mer, voilà, c'est la porte d'entrée qui va permettre à beaucoup de navires, en fait, de partir et de veiller sur des espaces un peu marginaux de la mer de Chine pour pouvoir récupérer des boat people en perdition.
Et le bateau a ce nom prophétique, l'île de lumière.
Un certain nombre d'entre nous n'avaient pas supporté les images du Haiyang, ça leur rappelait l'Exodus, j'imagine, et c'était insupportable. On s'est dit, un bateau pour sauver les Vietnamiens en mer. Donc on s'est dit, faisons un bateau hôpital d'abord, et après on leur prouvera que nous pouvons faire autre chose. Ce bateau, Île de Lumière, on n'a pas changé de nom, existait. Transformé à Nouméa et à Singapour, il est arrivé en avril devant Pulau Bilang. Et nous nous chargions non seulement d'hospitaliser les gens, de faire les consultations, mais nous nous sommes chargés de toutes les vaccinations sur l'île de Pulau Bidang, avec des vaccins qui ont été apportés de France. Nous sommes chargés de l'hygiène et de la santé publique sur l'île, ce qui représentait l'essentiel. Et surtout, nous sommes chargés de la construction d'un hôpital en bois que nous avons payé pour une part et que nous avons construit avec nos amis vietnamiens. Et lorsque nous sommes partis, l'hôpital fonctionnait et une équipe, à nous, était sur place pour y travailler avec nos amis vietnamiens, avec les médecins vietnamiens.
Alors, les Vietnamiens sont toujours très reconnaissants à Kouchner, parce que c'est vrai que c'est le premier, et pour moi, avoir eu des amis boat people, c'est vrai que Kouchner représente une sorte de personnage charismatique à cette époque, en tout cas pour avoir osé faire de l'ingérence humanitaire dans cette région.
Alors du coup, ce ne sont pas seulement les ONG qui s'impliquent, François Guillemot et les intellectuels, mais c'est aussi le gouvernement de Valéry Giscard d'Estaing. Quelle est la position adopté par la France, qui est quand même, à l'époque, on est post-choc pétrolier de 73, qui est quand même dans une crise économique.
Alors, c'est vrai que je crois que c'était Lionel Stoléru qui était en charge de cette affaire. Et il y a une dimension sans doute sentimentale vis-à-vis des ex-pays de l'Indochine, dans ce courant, disons, de la droite libérale française.
Donc c'est le lien de la France avec son ancienne colonie.
Je pense, au départ, qui a motivé, et évidemment peut-être l'anticommunisme, qui a fait que c'était des réfugiés qui posaient moins problème que d'autres. Ça, c'est le premier point. Mais je le lis tout de même à ce qui se passe au niveau international, c'est-à-dire que on a la première conférence sur les réfugiés à Genève en juillet, exactement le même jour que la date de la séparation du Vietnam en deux, en 54, mais là c'est en 79, les 20 et 21 juillet, la grande conférence sur les réfugiés organisée par le HCR et le gouvernement de Hanoï débouche sur un début de solution. C'est-à-dire que le gouvernement de Hanoï accepte que les instances internationales s'intéressent à ce sujet-là, ça devient moins tabou, et puis surtout accepte l'organisation de ce qu'on appelle les départs légaux, hein, qui vont permettre à plus de 150 000 Vietnamiens de partir cette fois-ci par avion pour dans le cadre de regroupement familial pour les pays, majoritairement les pays d'Occident.
Alors nous retrouvons le témoignage de Nguyen Van Nuy. Je rappelle qu'il tente 27 traversées dans des conditions terribles. Après avoir subi la prison et les interrogatoires, il se ruine pour fuir le régime communiste parce que cela coûte très cher de quitter le Vietnam. Mais la 27e fois sera la bonne. Il poursuit son récit de boat people au micro de Lydie Mouchamalieroy pour La Marche du Monde.
En avril 1983, c'est un bateau tout petit, même pas 10 mètres de long, et puis à peu près 2 mètres 50 de large. Et dessus, il y a une centaine de personnes. Et le patron du bateau nous dit qu'il n'y a plus de fuel. On laisse flotter le bateau, et puis on entend la nuit, on allume un peu le feu pour que les gens voient notre feu, ils arrivent pour nous secourir, pour nous recueillir. Et ce qu'on a fait, la première nuit, lorsqu'on a sorti de la mer à peu près 80 km de la côte du Vietnam, à côté de Saigon, et le premier jour, le patron du bateau demande que les hommes, si vous avez des vêtements non nécessaires, je donne mon pantalon qui brûle. J'ai juste le caleçon avec un maillot. Et la quatrième nuit, c'est un peu alarmant parce que personne ne vient nous secourir. Et on a vu la troisième nuit, le patron du bateau, il a dit que on n'a plus d'eau, on n'a plus rien, parce que chaque journée, une personne a juste une ration, c'est-à-dire un petit verre d'eau mélangé avec la rouille qu'ils ont trouvée dans un fût en métal. Maintenant, c'est terminé, il n'y en a presque plus. Et il ne pleut pas, et on s'inquiète un peu. Et surtout, l'eau qui reste en réserve pour les femmes qui sont dans la cale avec les enfants. Moi, je n'ai pas mangé depuis 4 jours. Soit on a coulé, soit on meurt de faim, on s'inquiète, on ne sait pas. Et le cinquième jour, on a vu de loin un tout petit bout noir qui arrive vers nous avec une petite fumée sur le dessus. J'ai dit, mais c'est bizarre. Et le bateau s'approche de plus en plus. Et puis pendant 3-4 heures, il arrive près de nous. Et on a vu que les matelots dans le bateau, ils nous font signe d'arrêter. Mais on dit, mon faute, on ne peut pas arrêter. Et puis le patron dit qu'il me reste 40 litres de fuel. Alors on va foncer à toute vitesse vers le bateau pour s'écraser. Soit on meurt, ceux qui survivent restent. À ce moment-là, j'ai vu les matelots du bateau. Ils font signe d'arrêter, arrêter. Et ils ont crié, nous sommes français.
Sauvé par un bateau français, Van Nuy est débarqué à Hong Kong où il va attendre encore 6 mois avant de pouvoir repartir pour la France.
Et à Hong Kong, on dit qu'on va nous renvoyer dans les camps de prison. Je connais bien la prison vietnamienne, je dis pour moi ça fait rien, de toute façon on a à quoi manger. Il n'y a pas de travaux forcés, c'est bon. Parce que dans ce camp de transit, c'est pour attendre que le gouvernement fasse les papiers, parce que moi comme je n'ai pas de famille, à l'étranger, c'est le bateau français qui s'engage à nous ramener en France. C'est ça qu'on entend. Et certaines d'autres personnes qui sont des parents aux États-Unis, en Australie, au Canada ou ailleurs, ils peuvent faire venir ces personnes-là dans le pays qu'ils veulent. Mais pour moi, la France, c'est bien, parce que je suis content. Et puis, il y a des personnes qui sont restées plus longtemps que d'autres parce qu'ils ne veulent pas aller en France. Comme nous venons quitter un pays communiste, et on a su que dans le gouvernement de François Mitterrand à l'époque, il y a des communistes qui sont au gouvernement et on a peur parce que nous, on ne savait pas. Parce que le mot communiste, nous sommes tellement allergiques aux communistes, on ne veut pas déjà. Mais on ne sait pas qu'est-ce que c'est la démocratie, on ne sait pas qu'est-ce que c'est un pays occidental. Après, lorsqu'on a fait les démarches pour rentrer en France, je suis pris l'avion de Hong Kong à Paris. C'est la deuxième fois que j'ai pris l'avion. La joie, c'est indescriptible parce que on sent la tranquillité déjà. Je suis sûr que je suis maintenant en liberté, dans un pays peut-être riche, je ne sais pas, mais au moins un pays en liberté. Et la France, lorsque je suis venu à Charles de Gaulle, les personnes du comité de HCR qui nous ont recueillis, ils ont parlé et puis je suis très content, vraiment, à ce moment-là. J'ai jamais fait un bisou dans ma vie, j'ai fait un bisou à ces personnes-là. J'ai dit, mais ce sont mes sauveurs. Et ces personnes qui nous recueillent à l'aéroport de Paris, ils nous ramènent dans un centre de transit à Créteil. Et là, nous sommes restés un mois pour qu'on répartisse dans d'autres centres partout en France, quoi. Mais on n'a pas le droit de rester à Paris. Et j'étais envoyé à Besançon dans un bus. Et voilà, j'ai resté là-bas pendant 5 ans. Et puis après, j'ai pu revenir à Paris pour vivre ici.
Après une mobilisation exceptionnelle de la société civile française pour accueillir les boat people, c'est un dispositif exceptionnel que le gouvernement de Valéry Giscard d'Estaing met en place.
Lorsque je suis arrivé en France, on m'a envoyé à Besançon. Et là, j'ai la chance de trouver le travail tout de suite. Et avec cet argent, je commence à voyager librement. Personne ne me demande le papier. Quand je traverse la frontière de la Suisse, de l'Allemagne et puis la Belgique, personne ne me demande rien. Je suis très content. Et puis, je vis en liberté. Je veux aller comme je veux. Je veux voir les personnes comme je veux. Personne ne me contrôle. Personne ne me pose la question. C'est ça que j'ai appris. La liberté, c'est quelque chose... On ne peut pas... échanger, on ne peut pas négocier, c'est la liberté, c'est la liberté, c'est une valeur qu'on doit respecter, il faut qu'on garde toujours pour les autres personnes, il faut que tout le monde en profite, cette liberté. Je suis un peu étonné, mais en fait, il faut apprendre à vivre tout seul en liberté, parce que sous le régime communiste, chaque déplacement, il faut déclarer, il faut aller à la police, il faut répéter ce qu'on a dit, ce qu'on a vu à la police, mais là, vraiment, on se débrouille tout seul. Cette première balade, vraiment, c'est comme un enfant qui commence à marcher tout seul. On a un peu peur, mais nous sommes 3-4 personnes avec nous. C'est tout, c'est que les gens nous disent toujours bonjour. Vraiment, c'est ça que ce qui me touche le plus, c'est qu'ils sont très polis, les Français. Vraiment, l'abondance, j'ai vu, les gens sont accueillants, souriants. Et puis je dis, mais c'est un pays heureux. Elle dit, mais c'est ça qu'on cherche dans la vie, c'est de vivre dans un pays tout le monde vit bien, tout le monde heureux, on sourit, on dit bonjour tout le temps. Et vraiment, on est en liberté et personne ne nous pose des questions. Pourquoi vous êtes là et où allez-vous, quoi? Et puis, avec l'argent, on fait comme on veut. Personne ne pose des questions. Et puis, nos conseillers d'acheter, on fait comme on veut. Si on a l'argent, on achète. On n'a pas d'argent, on n'achète pas. Personne ne pose des questions. J'ai toujours réussi dans les relations avec les Français, avec l'administration ou avec les Français en général. Je n'ai jamais eu de problème. Dans les relations professionnelles, amicales, ou culturelles ou administratives, j'ai toujours de bonnes relations. Et puis, j'ai la chance, quoi. Ceux qui viennent en France, surtout les Pulp Fiction qui viennent du Vietnam des années 75 jusqu'à 85, ils ont la chance parce que la France, l'accueil à bras ouverts. En 83, c'est très facile, hein, parce que moi, quand j'arrive en France, j'ai aussi de la carte réfugiée par l'OFPRA. Et à ce moment-là, j'ai dit, mais pourquoi pas demander la naturalisation française? J'ai commencé à faire les démarches et puis j'ai obtenu la naturalisation française en 85.
Arrivé en France le 28 août 1983, Nguyen Van Nuy est français depuis 1985. À 62 ans, il vit dans le sud de la banlieue parisienne et à son tour, il suit l'épopée d'autres réfugiés venus de Syrie ou d'Érythrée.
Quand j'ai vu les images des Boat People qui viennent de l'Afrique, ça me touche beaucoup parce que le périple, quel que soit le bateau qu'on prend, c'est toujours la traversée de la mort parce qu'on ne sait pas qu'est-ce qu'ils nous attendent. C'est la mer, mais on ne sait pas si on arrive. C'est tant mieux, mais si on n'arrive pas, on va tous tomber dans la mer et personne ne le sait. Hein. Et j'ai vu quand les images, les cadavres commencent à flotter sur le rive de la côte italienne, ça me choque beaucoup. Je dis, mais il faut qu'on fasse quelque chose. Mais quand j'ai vu les bateaux, je dis, mais c'est incroyable parce que nous sommes des petits bateaux de 10 mètres avec 100 personnes, mais là, c'est des bateaux en métal jusqu'à des milliers de personnes. C'est très dur, je pense, ces personnes ont beaucoup souffert que nous, en tant que Boat People des pays de l'Asie. Nous sommes des petits bateaux, peut-être 100 personnes, 200 personnes maximum. Mais dans un bateau de 1000 personnes, il n'y a plus d'unité. Hein.
Vous écoutez RFI, Valérie Nivelon.
Boat People, dans la marche du monde avec nos invités François Guillemot, historien, et Karine Mélin, sociologue, qui nous a rejoint. Merci d'être avec nous depuis France Bleu Nantes pour nous faire part du fruit de vos travaux. Bonjour, Karine.
Bonjour.
Mélin. Alors, 30 ans après, il semblerait que la vision de la France sur l'accueil des réfugiés a beaucoup changé. Comment expliquez-vous ce tri des réfugiés aujourd'hui dénoncé par Bernard Kouchner? Est-ce qu'il y aurait les bons et les mauvais réfugiés?
Alors, la catégorie de réfugiés, elle bouge en fonction des époques et des intérêts des pays. Et qu'à l'époque, on était dans un autre contexte, avec des intérêts stratégiques, et ce qui fait qu'on s'interrogeait moins de savoir s'il y avait des vrais ou des faux réfugiés. En tout cas, sur la question des réfugiés du Sud-Est asiatique, c'est pas une question qui s'est posée très tôt. Elle s'est posée beaucoup plus tôt pour les réfugiés originaires des pays d'Afrique, qui étaient sur les mêmes périodes. Le contexte politique de guerre froide, l'intérêt stratégique aussi, que finalement représentaient ces réfugiés-là, a contribué à faire qu'il n'y ait pas de suspicion, en tout cas une très faible suspicion comparativement à ce qu'on pourrait faire aujourd'hui, sur les motifs de leur venue.
François Guillemot.
Alors je voudrais juste apporter un éclairage sur cette géopolitique guerre froide qui se termine donc avec les années 90 et la fin des départs au Vietnam. En mai 89, on a cette deuxième conférence sur les réfugiés et le HCR et le gouvernement de vietnamien et tous les pays de la région d'Asie du Sud-Est. Et là, effectivement, on fait le tri entre réfugiés politiques et réfugiés économiques. D'où le drame après et la procédure des rapatriements vers le Vietnam qui est mise en place et de rapatriement des personnes déplacées vers le Cambodge ou vers le Laos. Et là, on a des situations tout à fait dramatiques, notamment à Hong Kong, qui regroupe plusieurs camps et jusqu'à 25 000 Vietnamiens, avec des immolations et des refus d'être rapatriés de force au Vietnam. Donc, cette affaire, après, a été un peu médiatisée dans les années 90, mais c'est vrai qu'on est dans une autre problématique déjà, à partir de 89, mi-89, on change de problématique.
Enfin, ça fait quand même 15 ans qu'on accueille des gens, François Guillemot. Donc, si on reprend la question de l'accueil des Boat People, qui est souvent justement circonscrite à cette période 75-90, c'est par exemple le récit de notre témoin Van Nuy Nguyen. Comment, Karine Mélin, vous pourriez qualifier la politique mise en œuvre par le gouvernement de Giscard d'Estaing à l'égard des réfugiés, des Boat People?
Alors, cette politique, elle me semble à la fois exceptionnelle par les mesures qu'elle va mettre en place et en même temps, elle est politique comme l'est toujours l'interprétation du droit d'asile, on va dire. Elle est exceptionnelle parce que effectivement, il va y avoir une reconnaissance des réfugiés quasi collective, puisqu'on va faire venir des quotas de réfugiés, et alors que la Convention de Genève appelle une reconnaissance au cas par cas, individuelle. Elle est exceptionnelle aussi dans les mesures qui vont être mises en place en France pour accompagner leurs premiers pas. On entend très bien dans le témoignage qui est passé juste avant, la manière dont finalement il y a une organisation et une harmonisation des interventions sur l'ensemble du territoire, entre par exemple les centres où, en région parisienne où on va se charger des papiers, etc. Et puis ensuite, une redispersion des réfugiés une fois qu'on a contrôlé leur santé, leurs papiers, etc. Une redispersion sur les régions où là, il y a une attention à ce que chacun ait un accès à l'emploi assez rapide, qu'il y ait des logements, qu'il y ait des comités d'accueil, etc. Donc il y a vraiment une harmonisation des interventions, notamment entre ce qui était autrefois les interventions de l'État et les interventions des associations. Sur la question des papiers également, ils ont des carrières de papier qui sont accélérées, c'est-à-dire qu'ils ont un droit de travail quasi immédiat sur le territoire français, ce qui n'est pas le cas à l'époque, alors pour les immigrés, mais qui n'est pas le cas non plus pour les réfugiés. Ils n'ont pas de délai d'attente, par exemple, pour accéder à la nationalité française, pour avoir le droit de demander la nationalité française. Donc on voit bien qu'on a tout un ensemble de mesures qui vont être atypiques et exceptionnelles et qui vont favoriser leur enracinement, en tout cas leur premier pas en France.
Alors vous avez étudié justement l'enracinement des réfugiés d'origine vietnamienne, cambodgienne, laotienne, hmong, comme François Guillemot l'avait souligné tout à l'heure. C'est vrai qu'on oublie souvent de rappeler la présence des hmong.
Et tous ceux d'origine chinoise aussi.
Et tous ceux d'origine chinoise. Karine Mélin, qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur justement la façon dont, à la faveur de cet accueil, parce que je pense que ça joue, cette communauté de réfugiés a fait son chemin en France?
Alors, j'ai travaillé plus spécifiquement sur les Cambodgiens, mais il ne me semble pas qu'il y ait a priori de grandes différences liées à l'origine nationale. Ce qu'on peut voir, c'est qu'il y a une diversité de parcours. Ce qui peut-être les spécifie par rapport à d'autres étrangers, c'est qu'il y a un véritable sentiment de dette envers la France pour une grande partie d'entre eux. Et que ce sentiment de dette, il va finalement nourrir une forme de déférence, une forme d'hypercorrection, ce qu'on appelle l'hypercorrection sociale, qui répond aux attentes de la société française, ou en tout cas que la société française nourrit généralement vis-à-vis des étrangers. Et donc, alors ça c'est plutôt sur ce qui les traverse tous. Après, sur les reconstructions de leur vie, on a des parcours très différenciés qui tient à la diversité aussi de leurs origines sociales. Parmi ces réfugiés du sud-est asiatique, il y a des personnes qui arrivent de milieux assez aisés, et puis il y a des personnes qui arrivent aussi de milieux ruraux, et du coup, eh bien, comme tout à chacun, ils ont plus ou moins de ressources pour reconstruire ici. Ils ont tous été très fortement déclassés en arrivant en France, mais ceux qui avaient un bagage culturel, un bagage scolaire, etc., ont réussi, à travers les parcours de leurs enfants, à avoir des trajectoires ascendantes, des trajectoires familiales ascendantes, ont réussi parfois à sortir de la condition ouvrière à laquelle ils étaient tenus pour passer qui chef d'équipe, qui technicien, etc. Donc ils ont réussi à avoir des petites promotions sociales, mais ils ne sont pas l'ensemble, et les parcours sont très contrastés comme ils le sont ailleurs.
François Guillemot, au fond, cette épopée des Boat People, de quoi est-elle le nom?
Alors, moi, je vois deux choses qui surgissent, c'est-à-dire qu'il y a
De façon très courte.
Bon, il y a des traits fondamentaux qui est l'aide à la personne en détresse et qui est exprimé d'ailleurs par les anciens Boat People pour les Boat People d'aujourd'hui, où véritablement, ça soulève énormément de questionnements sur ce qu'est l'humanisme et ce qu'est l'être humain. Donc, c'est des questions d'ailleurs philosophiques qui sont traversées par un certain nombre de philosophes qui aujourd'hui s'opposent, mais que je pense que Foucault déjà posait dans les années 70, où Camus et Sartre portent à un moment donné sur le doute qu'on a sur l'expérience humaine, quel poids a un être humain. Et puis, fondamentalement, la géopolitique a complètement changé, parce qu'on est passé d'une autre situation où l'islamisme fait peur, où les populations musulmanes ne sont pas vraiment comprises, ne sont peut-être pas non plus complètement intégrées. Il n'y a peut-être pas assez de centres de recherche qui permettent aussi ce suivi que disait Karine auprès des réfugiés sud-est asiatiques, c'est-à-dire qu'il faudrait peut-être développer aussi cette compréhension pour pouvoir aller de l'avant.
Karine Mélin, même question. De quoi l'épopée des Boat People est-elle le nom ?
Pour moi, elle est là pour rappeler que les formes de catégories administratives, réfugiés, immigrés, demandeurs d'asile, etc., elles sont étroitement liées au contexte politique, beaucoup plus qu'à la qualité intrinsèque ou aux motifs pour lesquels les personnes demandent tel ou tel statut. Et que du coup, ces catégories administratives, elles ont une incidence réelle sur les parcours de vie des personnes, mais aussi sur la perception qu'on en a. On se voit bien aujourd'hui combien être réfugié est beaucoup plus honorable qu'être immigré dans les catégories de perception. Donc je pense que c'est ça, c'est de redire que ça tient moins finalement aux personnes qu'aux situations dans lesquelles les États accueillants se trouvent, ce qui déculpabilise un peu et en tout cas qui met à distance la suspicion qu'on peut avoir sur telle ou telle catégorie de migrants.
Donc ça a à voir aussi aux intérêts des États.
Voilà.
Merci Karine Mélin, merci François Guillemot, merci à tous les deux. Boat People, le retour, c'était une marche du monde réalisée par Cécile Pompéani. Vous pouvez tout réécouter sur RFI.fr. Vous pouvez nous écrire à l'adresse suivante marche.monde@rfi.fr. Vous exprimez sur notre page Facebook. Cette émission, c'est la vôtre. Just a dream, it's a ticket to freedom. But on the boat, our souls got doomed. Tonight, we chose to leave or die. I'm afraid it was all a big lie. I promise, Mom, I'm not gonna drown. I'll swim to the coast, that's where I'll try. Horila Baralande, Allah kam misa.